Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Zazie, t'as envie de manger quoi maintenant que les restaurants ont enfin ouvert la délivrance?
Eh ben, en fait, je suis déjà retournée dans quelques restaurants et je me suis rendu compte que j'avais envie de manger chinois et des sandwichs.
Ah! Voilà.
Je sais, ça, mais je suis retournée au Grand Bol, par exemple, à Belleville, parce que je vais souvent manger chinois habituellement. Et en fait, c'est ce que je cuisine pas chez moi. Donc, finalement, j'étais hyper contente de retrouver ça. Et j'adore les bons sandwichs. Et c'est vrai que quand on était confinés, c'est un peu déprimant de se faire un sandwich à la maison.
Donc, j'en ai moins mangé, du coup.
J'ai été chez Mamiche, ouais. J'ai été chez Zaline dans le 11e,
évidemment.
Et j'ai été chez Jules parce qu'ils font des sandwichs sur mesure.
Trop bon.
Et ils mettent un Saint-Marcellin en entier. Et tout. Enfin, bref, c'est la folie.
Et toi, Jean-Christophe?
Et je suis justement en train de chercher parce que je suis très mauvais sur les noms de restaurants. Shinjuku.
Ah non, pas du tout. Je confonds avec un autre.
Oui, non, il est à l'angle avec la rue qui remonte. Ouais.
Extraordinaire, une carte à tomber par terre, des petits poulets croustillants, des petites boulettes de ne sais pas trop quoi, mais ça fait en bouche.
Trop bon.
Voilà, c'est ça.
Attends, c'est marrant parce que Zazie, tu nous cites ta cuisine chinoise. Jean-Christophe, personnellement, moi, c'est Ama Siam.
Ouais, je suis pas
allée la semaine dernière, c'est fou, mais c'est pareil, c'est inspiration vietnamienne, laotienne, chinoise.
Et moi, j'ai envie de udon froide chez Kunitoria.
Ouais. Et toi, Hector?
Moi, je crois que le chili crabe de Surmer, c'est un truc qui me manque beaucoup.
Et ben,
je vais chez Passerini, je vais pas tarder aussi.
D'accord.
Tu dis ça avec un ton hyper grave, tu sais, mais tu sais, ça y est, ça a rouvert, c'est
grave,
bon.
L'heure est grave.
Bon, c'est pas tout, mais on passe à table.
Ouais, on a faim, là.
Comment est votre blanquette?
La blanquette est bonne.
Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique.
Mange ma fille. Avec du bon.
C'est chaud. C'est chaud.
Présenté par Mina Sundiram et Elvira Masson.
Show 14, on est ravis d'être de retour et on est heureux de recevoir Zazie Tavitian, journaliste, créatrice des podcasts Casserole et à la recherche de Jeanne et fondatrice du Marché Vert. Salut Zazie.
Salut.
Bon, on va te laisser la parole dans quelques instants pour que tu nous expliques en quoi cela consiste. Et bonjour à toi Jean-Christophe Le Haut. Tu es directeur du Bouillon Pigalle et tu n'es pas venu les mains vides.
Effectivement, on est venu un petit peu équipé.
C'est gentil ça. Vous êtes là, tous les deux, réunis au micro de show, parce que chacun à votre manière, vous avez tous les deux finalement été acteurs pendant ce confinement.
Cette période a été le moment où plein de choses compliquées se sont jouées, mais aussi où sont apparues de nouvelles priorités. Alors les marchés en ville ont été contraints de fermer, mais les circuits courts ont explosé, on va le voir avec toi Zazie. L'État a été défaillant dans l'aide aux plus précaires, mais les assos se sont mobilisés comme jamais. Des milliers de repas ont été envoyés chaque jour pour les soignants. Et ça ouvre en quelque sorte une nouvelle voie pour la restauration collective. On va en parler aussi. Pendant ce temps-là, les restaurateurs ont souffert, ont agi comme ils le pouvaient, certains en justice, certains dans les médias, tous en pensant à l'après ou au pendant et en se réorganisant. Et apparemment, nous, on a tous beaucoup, beaucoup cuisiné et adopté un nouvel animal de compagnie qui s'appelle le levain. C'est tout ça qu'on va aborder, ça va être dense, on a intérêt à boire un coup pour faire couler.
Oui, c'est prévu, Elvie.
Cool.
C'est prévu. Zazie, tu as créé avec tes amis journalistes Jill Cousin, Céline Maguet et la photographe Anne-Claire Hérault le Marché Vert. Alors corrige-moi si je me trompe, c'est une carte interactive disponible sur Google Maps qui recense tous les circuits courts, donc c'est-à-dire les ventes sans intermédiaire finalement, de France qui sont accessibles aux consommateurs.
C'est ça, donc c'est les ventes sans intermédiaire ou avec un intermédiaire.
C'est ça la définition d'un circuit court, c'est un intermédiaire maximum.
Voilà. Donc, au début du confinement, on a appris que les marchés allaient fermer. Et on s'est dit, bon, ça va être problématique pour tous les petits producteurs qui passaient que par les marchés pour vendre leurs marchandises, ou en grande majorité. Et on s'est demandé comment on allait pouvoir agir à notre niveau pour les soutenir. On a aussi pensé à nous, aux consommateurs. Et on s'est dit, en fait, on n'a pas envie d'aller faire nos courses au supermarché, forcément. Comment faire pour être renseigné sur d'autres alternatives pour consommer autrement qu'en passant par la grande distribution? Et donc, avec ses amis, effectivement, et collègues, on a réfléchi à une solution et ça a pris la forme d'une Google Map parce que c'est assez facile à faire. enfin assez facile, on a dû se
former un peu,
voilà, se former un peu au tableau Excel, etc. Et l'idée, c'est d'en faire un objet collaboratif, c'est-à-dire qu'on avait un questionnaire où et les agriculteurs, par exemple, qui vendaient à la ferme, et les consommateurs qui étaient au courant d'initiatives comme ça près de chez eux, pouvaient renseigner les données.
Ah, donc c'était collaboratif.
Ouais, c'est ça qui a permis de pouvoir couvrir toute la France et d'être hyper exhaustif, parce que l'idée, c'était pas de rester non plus complètement parisien. Enfin, même pas du tout parisien.
Et donc, on peut recenser quelques initiatives, mais il y a eu les drives fermiers, les marchés de chefs, les AMAP. En tout, combien d'initiatives vous avez recensées en France ?
En tout, on a 1700 sur la carte.
Wow.
Ouais, donc c'est beaucoup. Et on avait aussi l'idée de ne pas exclure un type d'agriculture, mais de le renseigner. C'est-à-dire que c'est des questions qu'on s'est posées forcément. Est-ce qu'on va mettre que du bio ? Est-ce qu'on va mettre aussi du conventionnel ? Et en fait, c'était quand même un moment où on appelait à la solidarité et où beaucoup d'agriculteurs étaient dans le besoin, peu importe leur mode d'agriculture. Et donc, notre idée, c'était justement de faire un questionnaire assez exhaustif pour inclure tout le monde et en même temps pouvoir renseigner le type d'agriculture pour que les consommateurs puissent être acteurs en fait, de leur choix, quoi.
Bien sûr. Et comme c'est une carte au niveau national, est-ce qu'il y a eu des régions plus motivées que d'autres et à l'inverse, un peu plus flemmardes?
En fait, je pense que c'est assez intéressant et je me dis qu'il faudrait presque la faire analyser par, je ne sais pas, un démographe, hein, cette carte, parce qu'il y avait vraiment des coins qui étaient vides. Mais je pense que c'est aussi des endroits où il y a peut-être moins de circuits courts.
Valence, le nom d'une région.
Ben, je ne l'ai pas vraiment en tête, mais dans le centre de la France, je pense des régions qui ont été assez défavorisées.
Et ce ne sont pas forcément les régions les moins peuplées. Ce n'est pas du fait d'une forme de désertification
aussi. Un peu aussi peut-être, oui. Parce que la Creuse, par exemple.
Y avait toujours la Creuse. On en revient toujours à la Creuse.
C'est terrible. Mais, et au contraire, en Bretagne, il y a pas mal de choses. Donc, je pense que c'est vraiment à l'image de l'agriculture en France, en fait.
C'est marrant que tu abordes la Bretagne, parce qu'on en parlait en off avant l'émission et on se disait que la Bretagne était quand même... Je vais me fâcher avec les Bretons, mais pas à la masse, mais... Ah oui, mais oui, t'es Breton, je sais pas. On se demandait si c'était un peu rattrapé sur toutes ces questions, agriculture, bio, tout
ça. C'est complètement ça. C'est une région qui a fait beaucoup n'importe quoi en termes d'élevage et qui, du coup, a vu émerger une génération hyper militante qui est venue réparer les erreurs des aînés, je pense.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une région... Bah, c'est la région où il y a le plus d'agroalimentaire, de production agroalimentaire. En termes d'élevage de porcs, c'est aussi une catastrophe ce qui s'est passé en Bretagne avec les algues vertes, etc. Et je pense que c'est aussi une région qui est très régionale, enfin dans, un peu chauvine dans le sens où il y a vraiment... Bah on le voit, par exemple, c'est la première région où on boit plus de Brescola que de Coca-Cola.
Donc c'est une région qui a une très forte identité.
Voilà,
on va dire
c'est
ça.
Indépendantiste.
Exactement.
Mais peut-être qui a permis aussi de créer des circuits courts et que ça fonctionne. Enfin, il y a vraiment le pire comme le meilleur, je pense. En
tu as trouvé
Bretagne.
Beaucoup de ventes directes de poissons, notamment sur les côtes bretonnes?
En Bretagne, j'ai pas le souvenir. C'était plus à Atlantique et en Bretagne, pas mal de petits marchés, de peut-être de drive fermiers aussi, d'endroits aussi où ils s'organisaient dans les villages pour avoir, je sais pas, un tabac par exemple qui propose plusieurs produits de différents agriculteurs.
Une forme de mutualisation un peu des besoins et des spots de livraison.
Ouais.
Parce qu'effectivement, dans ta carte, il y avait à la fois des choses préexistantes et des choses qui se sont montées du fait de la difficulté de la situation, de l'impro quoi un peu.
Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a pas mal de producteurs qui ne vendaient pas forcément à la ferme, qui se sont mis à faire du drive fermier à la ferme. C'est-à-dire que beaucoup utilisaient leur page Facebook en fait pour dire bon ben voilà une fois par semaine vous pouvez passer à telle heure et on fait des paniers qu'on met directement dans votre voiture parce que peut-être qu'ils n'avaient pas l'infrastructure non plus pour avoir un magasin à la ferme. Il y avait par exemple des pêcheurs qui sont mis à mutualiser des paniers qui existaient déjà à proposer leurs produits, les produits de leur pêche parce que aussi pour les petits pêcheurs ça a été hyper compliqué. Parce qu'ils avaient l'habitude de vendre parfois au cul du bateau et ils ne pouvaient plus le faire, ça a été interdit pendant
puis
un moment.
Puis les criers ont fermé aussi avant de rouvrir, c'était hyper compliqué. Ouais.
Effectivement, il y a des gens qui ont dû s'organiser et je pense que ceux qui ont le plus souffert, c'est peut-être justement les plus petits producteurs qui ne sont pas non plus très à l'aise avec les outils Internet.
Les communications,
et
bien sûr. Est-ce que vous avez découvert des nouvelles initiatives en faisant tout ce travail de recherche? Des choses dont vous n'aviez pas entendu parler, un peu...
Des modèles complètement
neufs. Tu vois,
des
nouveaux modèles, des choses inspirées peut-être de l'étranger, ou qui vous ont vraiment surpris. Vous vous êtes dit, tiens, ce modèle-là, c'est peut-être quelque chose à pérenniser.
J'ai pas l'impression qu'on ait découvert des modèles complètement neufs. Après, je pense que c'était des modèles qui existaient déjà, mais de façon un peu marginale, et qui ont peut-être vocation à se pérenniser avec le temps. tout ce qu'on disait des drives fermiers, effectivement d'avoir des agriculteurs qui mutualisent et qui puissent vendre dans une seule ferme les produits des fermes environnantes. Je pense que je parlais aussi avec un pêcheur qui s'est mis à faire des paniers où il distribuait, il faisait de la livraison, il distribuait comme ça. Et il me disait, c'est génial, en fait, il y a des gens qui ont acheté du poisson qu'en supermarché toute leur vie et qui se rendent compte, en fait, qu'en faisant de cette façon-là, ben, ils ne payaient pas forcément plus cher et ils découvrent d'autres goûts. Et donc, ouais, c'est ça qu'on a vraiment réalisé en marché vert.
C'est important ce point-là quand tu dis qu'on ne paye pas forcément plus cher. C'est un vrai sujet qu'on se pose. On a un peu l'impression que ces choses-là que tu as répertoriées sur cette carte ne sont parfois accessibles qu'aux personnes qui ont accès à l'information, mais qui ont aussi accès à un porte-monnaie suffisamment garni pour pouvoir payer tant d'euros une botte de carottes. Mais ça, c'est un point de vue assez parisien, parce que ces produits issus du circuit court sont chers à Paris. Ils ne sont pas forcément aussi chers ailleurs qu'à Paris.
Bah oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est un point de vue assez parisien parce qu'effectivement, nous, à Paris, et c'est marrant quand on parlait d'inégalité aussi des territoires, on avait beaucoup plus de Paris 11e, etc., rive droite que de Paris rive gauche. Ouais. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'à Paris, pour avoir accès à ces produits-là, on va dans des épiceries spécialisées où on paye souvent beaucoup plus cher. Et en réalité, je pense qu'à la campagne, quand on va directement à la ferme, on ne paye pas forcément plus cher. Mais c'est aussi le temps qu'on met, faire ses courses à différents endroits. Avoir le temps, c'est aussi un luxe. Et quand on a plusieurs boulots et j'en sais rien, qu'on est intérimaire et qu'on doit faire de la route, déjà, on n'a peut-être pas autant le temps de se soucier des... Voilà. En fait, ce n'est pas une des priorités.
Les gens ont pris des habitudes depuis des dizaines d'années avec les supermarchés, les grandes surfaces, etc., de prendre l'automatisme, la facilité et d'oublier ce genre de commerce direct qui reviennent aujourd'hui avec le bio, la production naturelle, aussi bien dans le vin que dans les fruits et les légumes. On y revient de plus en plus. On a plus de commerce, mais il faut rééduquer
des habitudes
à l'inverse.
Voilà,
c'est ça. C'est les gens et l'État, je pense aussi, qui ont favorisé cette grande distribution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a moins de commerce dans les villages parce qu'on crée des grands centres commerciaux, qu'on n'oblige pas les supermarchés à modérer leurs marges. Et du coup, c'est vrai qu'il y a les gens, mais je pense qu'avant tout, et peut-être qu'on va en parler, c'est quelque chose de plus large et de plus politique.
Justement, c'est ce qu'on allait te poser comme question. C'est peut-être l'avenir du marché vert. Ouais. Mais l'avenir du marché vert, s'il n'y a pas une volonté étatique forte... On pose quand même une vraie question. On veut quoi comme agriculture pour aujourd'hui et pour demain, quoi? On donne quoi comme moyen à l'agriculture paysanne pour exister? On conçoit comment nos périphéries urbaines? Comment on avance sur ces sujets, sur les subventions de l'Union européenne vont toujours aux grosses exploitations? Nous attendons tes réponses. Le colloque peut démarrer.
Ouais, non, mais je pense qu'on l'a vu. Et peut-être c'était aussi, nous, ça a été notre réaction de faire le marché vert après le choix de fermer les marchés parce que c'était aussi un choix qui pouvait être discutable. En tout cas, les marchés de producteurs qui vivaient vraiment de ces marchés-là, d'un coup, fermer leurs ressources et laisser les supermarchés, eux, continuer à vendre, c'était aussi un choix qui pouvait être discutable. Et effectivement, je pense qu'il faut que... Il y a certains supermarchés qui ont communiqué comme quoi ils prenaient aussi que des produits français, qu'ils allaient soutenir les agriculteurs. Après, il y a eu d'autres échos qui ont... On a aussi entendu dire à la fin du confinement qu'ils avaient baissé les prix, notamment par exemple en viande bovine. Là, on voit que Lactalis va baisser le prix du lait alors qu'ils sont déjà complètement étranglés, les producteurs laitiers. Et donc ça, je pense que ça doit vraiment être des choix politiques. C'est-à-dire que même en supermarché... les producteurs qui vendent leurs produits en supermarché, parfois ils sont obligés des garanties sur la marge qu'on leur réserve et que ça leur permette de vivre.
Si l'État ne contraint pas Lactalis à arrêter les baisses d'achat du prix du lait producteur, comment est-ce qu'on peut imaginer que l'agriculture paysanne puisse être sauvée?
Bah oui, surtout que Lactalis en fait n'a pas tellement souffert de la crise.
Pas trop, non.
Pas vraiment.
Zazie, tu es pas venue les mains vides, t'es venue avec un morceau de musique.
Ah, j'ai cru que j'avais oublié d'amener une bouteille de vin, un truc comme ça.
Comment stresser son invité?
Il est où ton fraisier? T'avais dit d'apporter un fraisier.
Oui, je suis venue avec chanson de Nada qui date, je pense, d'il y a bien 30 ans, voire 40, qui s'appelle Mac et Fredofa. Et c'est parce que je l'ai beaucoup écoutée pendant le confinement.
Ben voilà.
Il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore dire ragazza, forse allora sì che t'amerei. Farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che tornerà.
On est désolé, on a dû passer un disque, parce qu'Elvira s'impatientait un peu. Je crois qu'elle a soif.
Je crois qu'Elvira est assoiffée, effectivement. Alors, ça tombe bien, parce que pour l'été qui arrive, j'ai dégoté un vin de plaisir, sensationnel. Une grenadine à 10 degrés, à base de cinzeau, donc. Ce raisin noir à jus blanc répandu dans le sud. C'est tellement glouglou que les plus décadents pourront même le boire à la paille dans une piscine, affalé sur un matelas gonflable en forme de part de pizza hawaïenne.
Non, on avait dit pas la pizza hawaïenne.
Je sais, Elvira, c'est affreux. Mais revenons à nos gorgeons. Ce bonbon liquide s'appelle Amasa et il est foulé entre Narbonne et Perpignan sur le domaine Mamaruta par Marc Castan, un vigneron à la naturalité irréprochable. Il travaille en agroécologie, il ajoute aucun intrant œnologique, il guérit ses chers pieds avec des décoctions de plantes, camille, ortie, pissenlit. Bref, aucune trace de chloroquine dans ses raisins. On goûte ?
C'est fait.
Ouais. On pense quoi de la robe ? Ça te plaît, Zazie ?
Ouais, j'ai déjà bu, je pense, pratiquement tout mon verre.
Pareil, pareil. C'est de la grenadine, c'est vrai. Et toi, Jean-Christophe ? JC ?
Eh ben, je qualifierais ça d'un vin rigolo. Comme c'est la présentation de ce vin qui est fantastique.
Absolument. Rigolo, fruité.
Et toi, tu veux un deuxième verre ?
Bah, vu comment il est parti le premier.
Ouais, c'est ça, acidulé, frais, rigolo, un vin friandise, on pourrait dire aussi. Hein, une sorte de Mr. Freeze alcoolique. On est désolé pour les moins de 18 ans néanmoins. Ils vont devoir attendre. D'ici, ils peuvent continuer à sucer des Haribo.
Mais c'est génial d'arriver à obtenir ce type de vin comme ça.
Ben oui, et c'est ça qui est intéressant. La vinification cultive soigneusement ses singularités. Par exemple, en commençant les vendanges assez tôt, dès la mi-août, quand le raisin n'est pas encore à pleine maturité, histoire de préserver cette acidité naturelle et ce faible degré alcoolique aussi. En plus, il y a même un léger perlant pour son côté nature qui lui donne du charme, je trouve. Et ajoute au côté Frizzy Pazzi.
Tu connais les Frizzy Pazzi, toi ?
Bah, bien sûr.
Vous êtes beaucoup trop jeune, c'est
Mitterrand,
ma génération.
Bien sûr. Un clairet très guiret, donc, comme son étiquette d'ailleurs, qui représente une joyeuse troupe bariolée à la manière de Kissaring, comme une invitation à l'apéro en bande. Alors attention, il faut quand même toujours maintenir les distances de sécurité. Hein.
Tu l'as acheté où ?
Eh ben, je l'ai acheté dans un haut lieu du marché vert à Paris, chez Zingam.
Ah, évidemment.
Bien sûr, maraîcher et épicier de quartier, tout en bio et en raisonné dans le 11e. Et ça coûte 10 balles, un modique billet rouge.
Bravo, tu as rempli ton contrat, nous dégoter une bonne bouteille à moins de 15 euros. Et ce qui amorce la transition, pas forcément très heureuse, avec, pour présenter Jean-Christophe, tu es le directeur du Bouillon Pigalle vous proposez une offre de déjeuner-dîner à 10 euros.
En livraison.
En click and collect, en vente directe et en livraison.
Voilà. T'as aimé la petite transition ?
Pas mal, non, on se rejoint sur les prix, ça va très bien.
C'est une théma 10 euros.
Bon, alors, pour replacer un peu le contexte, avec le bouillon Pigalle lancé par Pierre Moussier, vous avez ressuscité le bouillon parisien. et dans sa version plutôt troisième millénaire. C'est une cuisine bourgeoise de qualité, ultra bon marché, ultra sourcée, dans une immense brasserie à deux étages à Pigalle et bientôt à République.
Tout à fait.
Ah bon ?
Exactement. À la place de la brasserie alsacienne.
C'est pas vrai.
Chez Jenny,
ouais.
Ça me fait un peu de la peine pour Jenny.
On va garder quelques traces de cet établissement historique.
Ah ouais, il faut quand même. C'est un peu classé, non, quand même, Jenny, à l'intérieur, non ?
Quelques pièces sont classées qui vont rester en vie avec nous.
Voilà. Bon. Combien de couverts vous faisiez par jour avant le confinement ?
C'est un lointain souvenir aujourd'hui. on était entre 1500 et 2000 couverts jour. Midi, minuit, tous les jours, en service continu, non-stop.
Avec 1500 couverts, le confinement a dû être une épreuve d'autant plus grande pour une question de taille critique. Comment vous avez réussi à vous réinventer ?
On a réfléchi, on s'est reposé aussi pour avoir des idées fraîches après quelques semaines de confinement. On s'est dit, là, on ne peut pas rester comme ça, on ne sait pas combien de temps ça a duré. On se posait tous la question, je pense, dans n'importe quel secteur d'activité. Et on parlait tout à l'heure de R&D. Effectivement, on a fait la R&D entre nous, à 5 ou 6 personnes. Tous les jours, on a utilisé les réseaux, le FaceTime, etc. pour communiquer, échanger. Ce qui était le plus compliqué, en fait, c'est de trouver...
Mais de la R&D sur quoi ?
Sur des boîtes, sur des recettes, voilà, sur savoir comment adapter notre produit, notre offre avec notre carte, en gardant toujours ce concept de convivialité, de faire un peu le principe bouillon chez toi.
C'est déjà, avant de penser à R&D, c'est comment vous êtes venu cette formule à 10 euros ?
Alors, la formule est émanée de plusieurs réflexions, mais avant tout ça, le projet quand même de la vente à emporter et de livraison était prévu pour fin d'année 2020 sur le bouillon République à la place de chez Jenny.
Vous aviez anticipé la situation.
Voilà. On parlait de click and collect. Pour nous, c'était un peu la façon de consommer de demain. C'est une consommation outre-Atlantique qui est habituelle aux États-Unis, par exemple. Et on voyait de plus en plus de demandes à ce sujet. Donc, on travaillait le projet, on avait 9 mois pour le faire, et du coup, en un mois, on a réussi à faire...
Ouais, donc le confinement était un accélérateur de...
On est très productif, 1500, 2000 couverts jour, on est très productif, et là, un mois sans couvert, zéro couvert. On avait un peu plus de temps à concentrer sur le projet, on a réussi à le faire dans certaines limites et conditions.
Et du coup, vos clients ont répondu présents ?
Les clients ont répondu plutôt présents. Après, on parlait tout à l'heure de faire la cuisine à la maison pendant tout le confinement, des envies de restaurant. Le bouillon avait sa petite notoriété quand même. Et les gens étaient ravis, heureux, surpris de nous retrouver aussi vite. Et dans cette formule, toujours en ayant cet engagement de qualité, de quantité, de plaisir dans l'assiette.
Avec des plats qui tiennent la livraison, vous avez essayé d'empaqueter un plat, de le manger 2 heures après qu'il ait été mis dans un carton ou...
On l'a fait après la première livraison, oui. Là, on a retrouvé quelques saucisses purées qui étaient en sauce, plus que dans la purée. Et on s'est dit, on n'a pas fait de crash test. On a fait les crash tests ensuite et on a réadapté le dressage des assiettes par rapport à ce genre de contraintes. Ouais.
Parce que pour répondre à la question du post-confinement, de comment les restos se réinventent, c'était forcément par la vente à emporter dans un premier temps. Mais vous avez réfléchi avant le confinement. Comment vous vous êtes dit que ces plats de cuisine très française, on va dire, pouvaient... être adapté à la vente à emporter, parce que moi j'imagine le bouillon, quand je vais au bouillon Pigalle, je vais aussi pour l'ambiance, je vais aussi pour le service.
Il y a l'idée de la proposition aussi sur le marché, sur toutes les plateformes de vente à emporter, et de la cuisine française traditionnelle, dans ses qualités, dans ses prix, on n'en trouvait pas. Et on s'est dit que pour le bureau, pour la maison, pour le repas de famille, le soir en rentrant du travail à 19h30, j'ai pas le temps de faire à manger, j'ai 6 personnes, je peux mettre un plat vite fait au four, et j'ai la cuisine que j'aurais fait finalement, ou la cuisine de ma grand-mère. Et aujourd'hui, de pouvoir proposer bouillon service à la maison, au bureau, pour 10, 20, 30 personnes à un prix totalement raisonnable, et qu'on peut consommer en 48 heures à la maison, on peut le laisser pour le lendemain si on n'a plus très faim parce qu'on s'est jeté sur la purée.
Elle est bonne cette purée, faut dire.
Délicieux.
Moi, je me suis fait livrer ça. En plus, ça tient bien, ça tient bien le choc.
Ça tient bien le choc, et finalement,
ça se réchauffe facilement.
Le hashtag s'améliore réchauffé tenait bien aussi dans l'idée. Quoi.
Vous avez quelques marqueurs de la francitude assez malin. Bon, je crois que vous vendez le Parisien aussi, notamment, non ?
Avec
aujourd'hui, on propose le Parisien. On propose le pain Pougeran, bien sûr, qu'on ne représente plus. On a des classiques, l'œuf mayonnaise, dont on a été
champion du monde.
Merci.
Le titre décerné par la Somme, la société de sauvegarde des œufs mayo.
Tout à fait. Et on a eu de beaux retours sur notre saucisse purée avec la saucisse de la maison Montalais, qui est absolument extraordinaire. Circuit court, pareil, en direct, de petits cochons élevés dans le Tarn, au grain et à l'air frais.
Alors justement, le bouillon Pigalle, son modèle économique et son succès, et le sourcing hyper qualitatif que tu évoquais, Mina, repose sur le volume qui est énorme. Ces 1500 couverts jour qui vous permettent d'acheter à un prix possible des carcasses entières, des super produits.
Il y a une règle
mais là, comment vous avez fait en période de confinement pour continuer à assurer cette qualité ?
On a suivi les règles du bouillon traditionnel, c'est-à-dire qu'on ne perd rien. Nos morceaux de viande dans la blanquette et le bourguignon, ce sont des morceaux, des bas morceaux qu'on appelle. Donc, ce sont des morceaux à bas coût. On a toujours nos producteurs. Donc là, en plus de ça, vu la circonstance, bah, les patates, hein, sont pas très chères non plus.
Oui, parce qu'il faut dire que les producteurs de pommes de terre ont eu un mal fou à écouler leur production ces dernières semaines.
Et aujourd'hui, donc, le produit, c'est plus réellement le problème pour nous par rapport aux quantités qu'on consomme pour la production. Ça reste toujours intéressant, mais le business plan, on va dire, c'est surtout ça. C'est surtout, il faut qu'on puisse avoir du volume pour pouvoir derrière avoir des prix d'achat intéressants. Et surtout, on achète en quantité des producteurs qui savent qu'on est derrière.
Et vous avez continué à faire ça pendant le confinement dès que vous avez mis en place la livraison?
On a rappelé tout le monde et tout le monde est, on est là, les gars.
Et c'est comme ça que vous pouvez tenir 10 euros?
Tout à fait.
Mais on marge de... C'est quoi la marge quand on fait un menu à 10 euros?
Là, aujourd'hui, on n'est plus sur les mêmes dimensions. On n'est plus sur un établissement avec une location, avec du matériel, avec autant de masse salariale, de personnel aussi. Ce sont des choses importantes. On a un packaging, on a un sac, on a des boîtes, on a une certaine DA qui, pour rappeler un petit peu cette ambiance du bouillon.
Donc les marges sont plus élevées que dans un contexte de restaurant?
Elles ne sont pas forcément plus élevées, c'est juste que les dépenses ne sont pas les mêmes. Les charges sont différentes.
Et aujourd'hui, c'est combien de repas livrés?
C'est très encourageant pour la suite, sachant que là, le bouillon puis il y a l'arrêt ouvert. Et entre-temps, on a gardé du coup la livraison et le système de livraison et emporté, qui va bientôt ouvrir sur tout Paris. On a trouvé un laboratoire de fabrication justement pour nos produits. Et on va continuer à faire vivre le bouillon et peut-être le bouillon chez toi.
Même dans le 15e, tu veux dire?
Même dans le 15e, dans le 16e. Voilà.
Ou jusqu'en Normandie alors?
Pas encore notre partenaire courrier qui travaille nos coursiers à vélo.
Ah, justement.
Ouais, qui travaille avec nous, vont s'arrêter à la limite de Paris déjà. Et on va essayer de couvrir Paris toutes les livraisons en 20 minutes.
Quel est votre partenaire livraison?
Courrier.
Courrier.
Courrier, donc une entreprise qui a 5 ans, qui a un modèle on va dire, technologique qu'ils ont créé, qui est blanc. Donc, qui est libre d'utilisation pour chaque personne qui veut l'utiliser et qui ont un système donc, de coursier dans un système de salaire normal, on va dire. Voilà, avec un vrai salaire, des vrais contrats de travail. On souhaitait que le bouillon puisse être livré dans les meilleures conditions, dans les meilleurs formats possibles, avec des contraintes, certes. Parce que là, on est sur des gens avec du matériel très important, il y a des assurances, il y a plein de choses à prendre en compte. Sur la livraison, c'est un autre métier. On s'est pas lancé à mettre mettre nos serveurs sur des vélos. Sauf qu'on ne parle pas de la même chose. Et du coup, on a trouvé les meilleurs pour nous aujourd'hui qui proposaient la meilleure proposition, la meilleure offre et les meilleures conditions de travail pour tout le monde.
Bah, la question de la livraison est effectivement un vrai sujet. Pendant le confinement, dès que les restaurateurs sont organisés pour livrer, on a eu évidemment envie de les soutenir et on a forcément plus envie de soutenir des restaurateurs qui font appel à des systèmes de courses responsables un peu vertueux. Alors il y a Courrier, il y a Olvo qui est une coopérative qui livre à vélo cargo, donc avec une empreinte carbone pratiquement zéro. Mais c'est un coût aussi pour le restaurateur, il faut qu'il puisse l'absorber dans un système de livraison qui n'est pas un truc a priori très rentable. C'est rentable pour le bouillon Pigalle parce que vous êtes une machine de guerre quand même. Mais quand tu as un petit restaurant de quartier, si tu veux en plus mettre la charge au Olvo, ça fait beaucoup. Donc là aussi, on se dit que ce serait pas mal peut-être d'un petit coup de pouce de l'État pour favoriser
T'en penses quoi,
des systèmes de courses vertueux, non?
Ouais, moi c'est un sujet qui m'intéresse vraiment et j'ai interviewé pendant le confinement pour Vice un collectif qui s'appelle le CLAP, qui est un collectif qui s'organise en syndicat, qui défend justement les livreurs à vélo je sais pas si on peut les citer, oui, Deliveroo, Uber, Frichti en ce moment dont on a pas mal parlé parce qu'ils embauchaient des livreurs sans papier et qu'ils les ont tous licenciés au même moment à la fin du confinement. Et effectivement, lui racontait que c'était très compliqué pour les livreurs pendant le confinement parce que c'était souvent les plus précaires qui continuaient à travailler, qui n'avaient pas forcément les conditions sanitaires exigées et ils étaient un peu envoyés au front sans être du tout reconnus dans leurs efforts. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet et je pense que c'est compliqué parce que on a été aussi habitués peut-être à payer très peu cher la livraison comme c'était un service gratuit et en réalité on oublie qu'il y a des gens qui livrent derrière et qui doivent avoir des conditions sociale et financière pour pouvoir le faire.
Le client conscientise aussi ça, pas seulement effectivement la source de son poireau, mais aussi combien coûte le fait qu'on lui apporte à manger.
Il y a eu au lancement de l'ubérisation à Paris, on a tous ce souvenir de la belle berline à 100 000 euros avec le chauffeur qui sortait avec son parapluie quand il pleuvait, en costard-cravate, etc. Aujourd'hui, on est loin. Et les choses ont changé et on a des nouveaux systèmes de transport, on va dire, qui arrivent et dont les coursiers aujourd'hui deviennent... je pense, une matière verte très importante pour la livraison, surtout dans notre agglomération.
Et comment ils font justement courrier pour réussir à payer correctement les livreurs?
Ce sont des contrats de travail aussi simples qu'un contrat de travail pour n'importe quel type de poste, en CDI, CDD ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de course, je ne sais pas comment on fonctionne. Je connais les tarifs des prestataires actuels qu'on a sur les plateformes. mais je ne sais pas comment il fonctionne par rapport à cette...
Et vous, cette livraison, vous le... enfin, il est payé par le consommateur, du
il
coup
Il est payé c'est... par ouais. le consommateur. Aujourd'hui, pas entièrement.
Ouais.
Parce qu'on en prend en partie une charge, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des livraisons à 10 euros ouais, ou 15 euros. Donc, on a pris la décision de faire une livraison à 5 euros pour tout le monde dans tout Paris, que ce soit 2 ou 10 sacs. Et derrière, on ouvre une proposition, une offre, en fait, pour les sociétés, pour les grosses livraisons de cantines, 30, 40, 100 personnes, s'il faut, avec un système plus adapté. Car en fait, on a déjà eu de la demande des chantiers, des boîtes de BTP, des banques qui nous appellent pour dire est-ce que vous pouvez nous livrer tous les jours ou pas ? Parce qu'on veut changer la cantine. Et aujourd'hui, les cantines ne sont pas ouvertes encore. Les cantines des entreprises ne sont pas ouvertes non plus. Donc, il faut pouvoir restaurer son personnel. Donc, on est possiblement une solution à ça.
Et c'est d'ailleurs Olvo, la coopérative de Vélo Cargo, qui nous a livré notre déjeuner.
Ah !
Enfin, une partie, parce qu'évidemment, Jean-Christophe est arrivé avec plein de choses à manger aussi. Mais on a un double déjeuner. On a à la fois tes plats, Jean-Christophe, et on a ceux de Romain Médère.
Waouh !
Chef très très versé dans la naturalité, très végétale du Plaza Athénée. Il s'est également lancé dans la livraison de repas qui sont préparés dans les cuisines des Lyonnais, rue Saint-Marc, dans le deuxième. Alors là, on n'est pas dans des menus complètement végétariens, mais quand même à forte tendance végétale. Et c'est hyper joli, hyper appétissant. Je vous propose qu'on goûte ça pendant qu'on écoute la musique que tu as choisie pour nous, Jean-Christophe, et qui est...
Aérodynamique, Daft Punk.
Classique,
un grand classique qui rappelle des bons souvenirs de travail.
Oh,
régale tous un peu. On mange, personne ne mange la
un
même
peu,
chose.
Un peu, on un se peu. On se régale beaucoup. À mort, quoi. Ouais.
Personne ne mange la même chose. Jean-Christophe, toi, t'es.
Je fais une petite salade. Salade. Pour changer les saucisses purées, par exemple. Mais ouais, non, ouais. C'est vraiment à tomber. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de saveurs, du croquant. Avec on a un mélange
un de poisson,
effectivement, ouais. De la grenade. Parfait pour la saison.
Ce qui est chouette avec tous les plats qui sont envoyés comme ça par Romain Médère en livraison, ça s'appelle naturaliste-paris.com, le site sur lequel tu peux acheter, c'est que les sauces, les assaisonnements sont livrés à part, donc les salades sont pas cuites, c'est un peu le problème de la livraison. Ce sont des petits jus, notamment le ceviche, t'as un petit jus vert très vif, les sauces et les condiments sont hyper bien pensés, quoi.
Ouais. Et les boissons aussi, là, j'ai un jus pomme-foin, qui est pas
t'es
mal.
T'es pas allergique? T'as pas ton...
J'ai les rhumes des foins, mais ça va. Ça va.
Et vous, là, à l'autre bout du studio, ça va, l'œuf maillot?
Ouais, on a arrêté de parler, là, avec
Kaita. On vient de manger Zinedine Zidane, c'est-à-dire un champion du monde, mais des œufs maillot, et on est assez contents, là.
T'as mis quoi, Jean-Christophe, dans les plats? Enfin, c'est pas toi qui l'as fait directement, mais donc t'as œufs maillot, quoi d'autre?
Alors, on a des œufs maillot avec une petite pousse d'épinards, on a un petit roast beef charolais avec salade de pommes de terre. Et nous avons également, dans les desserts pour la suite, on n'y est pas encore, une flottante avec son petit caramel beurre salé. Recette de la grand-mère en Bretagne.
Exactement. On va attaquer la dernière partie de l'émission, comme ça tout le monde pourra manger dans son coin après. On a décidé de faire un tour de table de toutes les initiatives, de tout ce qu'on a vu pendant ces derniers mois, pendant ces mois de confinement, qu'on veut garder, qui nous a amusés, pourquoi pas, qu'on a détesté, mais je préfère qu'on garde le positif, on préfère garder le positif.
Mais plutôt lié aux recettes, ça. Plutôt lié aux pratiques de
ouais,
cuisine
bah
à la
oui,
maison.
Oui, on a cuisiné à la maison.
C'est toi qui décides.
On a tous... Non, parce que personnellement, je pense que c'est toi qui a de nous tous le plus cuisiné à la maison, donc il sera même ça. De nous en parler. Mais un peu, voilà, tour de table de tout ce qui nous a plu pendant ce confinement, des recettes maison, ouais. Comme celle de Taku. Taku Sekine, le chef de Dersou Cheval d'Or, qui s'est mis à cuisiner à la maison avec son fils.
Et ce qui ne cache rien, son fils est extrêmement mignon.
Ouais.
Ce qui ajoute quand même.
Ah, mais c'était. Je regardais ça comme un chief table, quoi.
La moindre raviole, la moindre crêpe, le moindre gâteau qu'il faisait, c'était complètement addictif. Donc, on vous recommande de suivre Taku Sekine, en effet.
Toi, Zazie?
Ah, moi, je pense que je fais partie du club des levains, c'est-à-dire des gens qui sont... Ben, j'avais déjà mon levain avant, mais là, j'ai carrément intégré un groupe secret Instagram de gens qui...
Mais non.
Qui s'appelait les Bakery Resistance, je crois. Et donc, tout le monde s'est changé ses recettes de levain. Après, c'est devenu très, très technique où les gens faisaient des trucs très compliqués. Ils parlaient farine ancienne, blé ancien, etc. Mais c'était pas mal. C'était marrant parce qu'on s'est changé nos photos de pain.
C'est une vraiment secte de... boulangère, c'est ça
c'est
que
vraiment
tu veux dire.
Une secte boulangère,
mais j'ai vu,
en fait.
Vous faisiez du troc de levain.
Il y avait du troc de levain, effectivement, du troc de farine. On se donnait les meilleurs plans pour savoir.
Mais il porte un nom, ton levain, ou tu l'as quand même pas baptisé?
Moi, mon levain, c'est Céline Maguet qui me l'a passé. Donc, je l'ai appelé Maguiche. Et il venait d'une amie boulangère à elle qui est américaine et donc qui vient de San Francisco. C'est hyper chic.
En fait, c'est hyper snob, le levain.
C'est super snob. Et je pense que j'étais hyper contente aussi d'arrêter de faire mon pain parce que, enfin, je continue à en faire de temps en temps. Mais disons que c'est aussi très chronophage. Et en fait, il y a des boulangers qui font des très bons pains.
Ah bah tiens, ouais. Voilà ce que Hector professait en off. Il disait, c'est quand même un super métier.
Non, je m'interroge un peu sur les limites du do-it-yourself. C'est à quel moment le do-it-yourself va pas à l'encontre, ce serait beaucoup dire, mais interroge la question des artisans et de ceux dont c'est le métier et qui font ça très bien. Mais enfin, faire du pain chez soi... pas de problème, pas comment dire. Moi, j'en fais pas, mais...
Non, mais c'est pas très écolo, en plus.
Toi, Jean-Christophe?
Alors, pendant le confinement, j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper de ma chère tante qui est médecin réanimateur. Donc, j'ai fait à manger tous les jours. Elle prenait ses petits plats faits maison pour partir au travail et épater la galerie. Et...
Bon, t'as pas fait pour les collègues?
Concrètement, j'ai pas trop eu le choix parce que les collègues ont été gâtés par les restaurateurs. Ouais, ça, c'était
Et son hôpital à elle n'était pas livré par Ecotable qui s'est organisé avec les marmites volantes,
Ecotable,
avec le réchaud.
Pas, mais avec beaucoup de restaurants de chefs, beaucoup de bistrots. Ils ont été couverts de plats et également de produits cosmétiques, généralement pour les peaux, pour les crèmes de main, etc. Donc, ce sont des beaux gestes qui ont été réalisés, vu que ça dure actuellement. C'est des choses qui changent aussi, c'est d'autres sujets, mais voilà.
Et toi, Elvira, t'as cuisiné H24, jour sur 7.
J'ai pas cuisiné H24, mais j'ai vraiment cuisiné tous les jours. Ça a commencé, je me suis plus arrêtée, quoi. C'est-à-dire que je me suis aperçue de l'existence de quelque chose qui a été créé au tout début du confinement. C'est une asso qui s'appelle Pour eux le Move. Et le principe est simple, c'est dans plein de villes de France et à Bruxelles aussi. quand tu cuisines pour toi, on part du principe que tu peux facilement faire 2, 3 ou 5 parts en plus. Tout le monde ne s'est pas envoyé 1500 couverts jour. Hein. Et du coup, tu mets tes parts en plus dans des contenants et tu appelles un coursier à vélo qui vient le chercher en bas de chez toi. Et ces repas, ces parts en plus que tu fais sont distribués au fil des maraudes par les coursiers de Pour eux le Move. Donc, comme je cuisinais effectivement beaucoup, c'est pas très compliqué quand tu fais une salade de lentilles mollet de te dire que tu en fais 5 parts plutôt qu'une, quoi. C'est une super initiative, ouais, Pour eux le Move.
C'est quoi la recette qui t'a le plus excité?
Alors moi, j'ai fait, mais j'ai bricolé. Attends, là, tu me pars d'une ambition. C'est du bricolage. J'ai fait vachement de tartines avec du labneh. Bon, j'ai fait mon labneh tous les trois jours parce que j'en mange des quantités astronomiques. Donc, plutôt que de me ruiner dans les épiceries turques, j'ai fini par le faire moi-même. En faisant juste égoutter un fromage de brebis frais ou de chèvre frais. Tu fais goûter une nuit dans une petite mousseline et t'as ton labneh. Et après, je l'assaisonne avec du zaatar, des zestes de citron, de l'ail, du sumac. Je mets ça sur du pain au levain. Je viendrai te voir la prochaine fois.
Tu me prends une livraison.
Je me suis découvert une passion que j'avais déjà en fait pour les anchois, le mélange anchois mozza. Maeva de la pizzeria La Bonne Mère à Marseille m'a donné sa recette de pizza in padella. C'est la tradition napolitaine de pizza que tu démarrais à la poêle, que quand dans les foyers modestes à l'époque tu n'avais pas de four. Donc je me suis fait une série de pizzas à la poêle avec ce que j'avais sous la main. Mais tu me connais, hein, c'était que du bricolage, mais j'ai kiffé quoi.
C'était très beau. T'en as fait combien des recettes, Elvira? T'as compté?
Bah au moins une par jour.
Donc une bonne centaine.
Et t'en as surtout fait une pour Aitor.
C'est vrai, parlons-en.
Morceau de choix.
Ouais, c'était un super projet ça, Aitor.
Et tu peux nous en parler en deux secondes?
Ouais, en deux mots, j'ai proposé à des chefs confinés de cuisiner des pages de la littérature, des extraits dans lesquels un roman ou un poème évoquait un plat, un aliment, et de librement et avec les moyens du bord, puisque confinés, d'interpréter, non pas d'illustrer, mais vraiment d'interpréter, donc... la dite page, et des fois ça a vraiment très bien marché. Mmh. Et effectivement, Elvira m'a fait, a fait pour le projet une tartine de suédoise.
En hommage à Lisbeth.
À Lisbeth de Stieg Larsson dans Millennium. Et c'était vraiment canon.
Donc, jaune d'œuf Gravelax, hein, c'est un peu ma marotte du moment. Jaune d'œuf confit dans
c'est
du gros
sel,
du sucre. Eh, si, mais là, je recommence avec un petit tropisme plus nordique en ce moment. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Des œufs de poisson qu'on m'a rapporté de Suède, un pain noir danois. Et puis, de la nette, évidemment.
Et si vous voulez aller voir la recette, d'ailleurs, je m'en profite pour me faire un peu de pub, vous pouvez aller voir ça sur le compte Instagram qui s'appelle Sauce Gribiche.
Super, mais là, c'est un peu l'instant autopromo, de toute façon. Parce que Mina, ce qu'on n'a pas dit, c'est que toi, Zazie, t'as fait ta carte de circuit court, de où se fournir en quoi. Mina, toi, t'as eu un super projet qui a été un vrai soutien pour les restaurateurs. C'est que dès qu'ils ont commencé à mettre en place des livraisons ou du click and collect, tu t'es fendue de ta petite carte, là.
Ouais, mais je sais pas si c'est un... Enfin, je me disais, j'ai un rôle à jouer et moi, ma spécialité, enfin, je suis connue pour être la fille qui mange des sandwichs sur le trottoir. Donc, la vente à emporter, le click and collect, a priori, c'était mon domaine et je connais assez bien. Et en fait, je me disais, attends, il y a quelque chose à faire. Est-ce que ta carte, Zazie, m'a inspirée? Je pense. Je la trouvais super bien foutue et j'étais encore bravo pour cette initiative parce que c'était vraiment... c'est tout ce qu'on attendait, et puis c'était sincère.
Et c'est inspirant.
Inspirant, très très inspirant. Et je pense qu'en effet, ça m'a un peu inspirée. Alors moi, c'était uniquement à Paris, parce que j'étais seule, et c'était aussi collaboratif, mais pas aussi bien foutu que la vôtre.
Ça prend du temps, en plus.
Ça prend énormément de temps. J'ai reçu 2000 messages sur Instagram. Ce que j'ai noté, c'était la solidarité. Et tous les gens qui m'ont envoyé des messages en me disant « il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça », finalement, ça faisait une carte de 100-300 adresses. Et encore, j'ai dû l'arrêter parce que de toute façon, le fooding a fait un truc quand même assez canon qui s'appelait plat de résistance. C'était très intuitif, plus que ma carte pour le coup. Et bon, après,
parce qu'ils avaient des développeurs et pas toi.
Ouais, voilà. Moi, j'étais toute seule. Je me suis familiarisée à Google Maps en une après-midi. Finalement, c'est pas si compliqué. Voilà, je voulais les soutenir à ma façon. Je sais pas à quel point... ça les a aidés parce que vous avez eu 2 millions de vues ou quelque chose comme ça, non?
Oui, on a
sur
eu...
Sur votre carte.
Je sais plus, je l'avais noté, mais ouais, on a eu beaucoup de vues. Mais après, il y a eu d'autres cartes aussi qui ont été faites.
Le vin.
Une carte pour le vin, une carte pour la bière aussi, qui a été faite par une biérologue.
Oui, exactement. Je me rappelle c'est un métier.
Zytologue, on dit, je crois.
Ah, zytologue Ok, marrant. C'est encore plus joli. Et une carte aussi qui mettait en lien les producteurs avec les points de vente. Donc, c'était vachement bien que... Enfin, nous, il y a aussi plein de gens qui nous écrivaient pour nous dire ça qui existe. Et c'était justement toutes ces manifestations de gens qui voulaient aider à leur façon, même petits ou gros, qui étaient
assez réconfortante pendant ces moments un peu durs, quoi.
Bah, Mina, t'employais le mot de solidarité, ça a quand même été un mot super fort pendant le confinement. Notamment, on parlait du tissu associatif qui s'est mis au boulot comme jamais, des nouvelles assos qui ont été créées pour pallier aussi l'absence d'aide de l'État. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la rue, personne ne s'est posé tellement la question de leur sort, à part les assos. Moi, j'étais frappée quand même, faut peut-être qu'on le dise, de l'élan de solidarité des restaurateurs envers les soignants. Je m'attendais pas forcément à ça, à ce point, de la part de ce milieu qu'on connaît assez bien, de manière complètement spontanée, organique. Ça s'est organisé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment rassurant, réjouissant, quoi.
J'ai été bluffée, moi aussi. Je m'attendais pas à autant de vigueur dans cet élan de solidarité. Et puis surtout de s'inventer une espèce de mission de service public spontanément. Oui. Hein, et puis de continuer à être au boulot. C'est-à-dire pour les cuisiniers, c'était la manière qu'ils ont eu de continuer à faire leur métier. Ce qui, je pense, en période de confinement, est fondamental pour structurer tes journées. Et ça a été assez beau, ouais.
Toi, tu voulais partager un projet, une initiative assez marrante.
Ouais, décalé. Ça s'appelle la fin des haricots, la fin FIM. C'est un projet décalé participatif de Javid Rawat. En deux mots, il récolte des témoignages sous forme de recettes cuisinables ou au contraire totalement loufoques. On y trouve, par exemple, la recette d'un gratin de spaghettis aux rillettes, mais aussi la recette d'une parfaite glandouille sur canapé, avec la photo d'un pied qui fume une cigarette. L'idée de l'auteur est de documenter le rapport à cet enfermement imposé qu'on a tous connu. Et d'ailleurs, chacun peut proposer une idée sur le site leséditionsdumotel.fr. Et il vient de lancer, je termine, une campagne de financement sur KissKissBankBank. Savoir que tous les bénéfices du futur bouquin seront reversés à l'excellente asso La Chorba.
Ah, super,
qui récupère des invendus pour nourrir des personnes en grande précarité. Donc, c'est un soupir projet, monsieur Chorba.
On terminera donc sur ce jeu de mots parce que l'émission touche à sa fin. On revient bientôt dans ce studio de Grain de Contrôle qu'on aime tant. Et Grain de Contrôle, d'ailleurs, vient de rouvrir tous ses restaurants. Solina, Calimera, qui va bientôt se lancer, je crois, dans des recettes à base de produits de la mer. Enfin, voilà, c'est toujours aussi bien et c'est toujours un plaisir d'être ici.
Merci à vous deux.
Merci à
vous. Zazie, Jean-Christophe. Merci à Mathilde Giraud, Denis Lega, Élise et Laura de Grain de Contrôle pour votre confiance. Merci à Pierre-Alexandre Perrin et Frédéric Horry à la console et à la photo.
Show.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.